VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry et Abidjan. Bonsoir, voici les titres. À la une, le référendum constitutionnel au Burundi. Plus de 4,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour voter pour ou contre le projet de réforme voulu par le président Nkurunziza. La République démocratique du Congo et le virus Ebola. L'OMS annonce un premier cas en zone urbaine dans la ville de Mbandaka. Et toujours en RDC, 21 ans, jour pour jour, le règne de Mobutu a pris fin dans nos dossiers du jour.
Ce qu'on peut retenir de Mosée, c'est par son action que le pays a été remis à l'endroit. Nous sommes redevenus République démocratique du Congo.
La Ligue arabe s'est réunie au Caire. Les ministres des Affaires étrangères appellent à une enquête internationale sur les crimes des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Dans la Minute Éco, la lutte contre le changement climatique pourrait causer la perte de 350 000 emplois en Afrique. Et puis la liste des 23 lions de l'Atlas pour le Mondial 2018 dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Burundi, quelques 4,8 millions d'électeurs ont voté ce jeudi lors d'un référendum sur une révision constitutionnelle qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester éventuellement au pouvoir jusqu'en 2034. Dans la province de Ngozi, d'où est originaire le président, Pierre Nkurunziza a voté sur sa colline natale de Bouyé en compagnie de son épouse, la correspondante du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique, Fidélité Ishatse, y était. Yakuba Ouedraogo la jointe.
Les bureaux de vote ont ouvert à partir de 6 heures du matin. L'engouement, oui, il y en avait parce que les gens ont commencé à s'amasser autour de ces bureaux, pour certains à partir de 4 heures du matin, 5 heures. Les gens étaient vraiment contents. Pour certaines, c'était comme si c'est la libération du Burundi. Pour d'autres, c'était comme si maintenant ils vont s'approprier de la constitution. Puis il y en avait celles qui disaient que maintenant c'est fini avec les accords d'Arusha. Là où le président Nkurunziza a voté, donc c'est en pleine campagne. Là où j'étais, c'est-à-dire dans la commune de Mwumba et dans la ville de Ngozi, apparemment il n'y avait pas des observateurs mixtes. On y rencontrait beaucoup plus des observateurs issus du CNDD. Maintenant, c'est fini, c'est nos décomptes qui commencent.
Donc c'était Fidélité Ishatse, correspondante du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique, jointe à Bouyé dans le nord du Burundi. Et nous poursuivons toujours au Burundi avec Agathon Rwasa à la tête de la coalition d'indépendants Amizero Abarundi, qui signifie espoir des Burundais. Il a aussi voté dans cette même province de Ngozi. Et un autre correspondant du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique, Jean Bosco Ndarurinze, y était. Yakuba Ouedraogo l'a joint également.
Agathon Rwasa a signalé que dans différentes localités du pays, il y a eu des incidents de la plupart de ses membres, parmi lesquels les mandataires qui devraient observer le déroulement de l'élection. Beaucoup d'entre eux ont été malmenés selon lui. Par ailleurs, il a indiqué qu'un membre de sa coalition Amizero Abarundi, à commune Rumonge, a été tué par des gens du camp du parti au pouvoir. Et il a indiqué que l'élection pourra ne pas donner des résultats qui sont fiables. Si je fais un constat en ce moment, je peux dire qu'il n'y a pas eu d'incident. Je peux dire que pour le moment, tout s'est bien passé du point de vue de la sécurité. Mais bien sûr, à part ces incidents qui ont été signalés dans d'autres localités du pays par le président de la coalition Amizero Abarundi.
C'était Jean Bosco Ndarurinze, correspondant du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique, joint à Kiramba dans la province de Ngozi au Burundi. Et le comptage des bulletins a commencé dès la fermeture des bureaux. On y reviendra dans la partie magazine. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé confirme un cas d'Ebola en zone urbaine à Mbandaka, la capitale provinciale de la Tchouapa. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie déclarée le 8 mai. L'organisation évoque une situation très préoccupante. Des détails avec Anastasie Tudjesh.
Selon une source médicale, la personne infectée qui a contaminé deux membres de sa famille est venue il y a une dizaine de jours à Mbandaka depuis Bikoro, zone rurale difficile d'accès où la fièvre hémorragique Ebola a été détectée en début du mois. carrefour de plusieurs cours d'eau, Mbandaka approvisionne Kinshasa en poissons et gibier par le fleuve. Le trafic par bateau et pirogue est intense entre les deux villes. Selon un correspondant de l'AFP sur place, aucune disposition particulière n'est prise par les autorités sur le terrain pour contrôler les déplacements entre Mbandaka et Bikoro d'une part et entre Mbandaka et Kinshasa d'autre part. Vendredi dernier, le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama, avait averti que si une ville de la taille de Mbandaka était infectée par Ebola, une épidémie urbaine majeure serait à prévoir.
En Centrafrique, un casque bleu mauritanien a été tué et 8 blessés lors d'une attaque d'un convoi de l'ONU par des milices anti-Balaka dans le sud-est du pays. C'est ce qu'a annoncé l'armée mauritanienne en affirmant que 40 assaillants avaient été tués. Par ailleurs, la mission de l'ONU, la MINUSCA, a affirmé avoir repris le contrôle de Bambari dans le centre du pays après l'attaque de plusieurs institutions de la ville lundi et mardi qui a fait 8 morts. Bambari n'est pas tombé. Nous n'allons pas laisser cette ville symbole du retour de l'autorité de l'État entre les mains de groupes armés. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la mission onusienne. En Guinée, le Premier ministre Mamadi Youla a présenté la démission de son gouvernement. Cela vient 2 mois après la promesse du président Alpha Condé de procéder à un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations, dont certaines meurtrières. Par ailleurs, l'opposition guinéenne a annoncé la veille la suspension de ses manifestations de protestation contre les résultats des élections locales de février, après avoir, selon elle, reçu une offre de médiation de représentants de la communauté internationale. Au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées dans un attentat suicide contre une mosquée du nord-est du pays où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Un kamikaze qui s'est fait passer pour un fidèle s'est fait exploser dans une mosquée, dans un camp accueillant des personnes ayant fui les violences pour se réfugier à Dikwa, dans l'état du Borno. Et Nigeria, toujours en 3 jours, plusieurs dizaines de personnes ont été enlevées sur une route dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays. Les criminels ont enlevé des barricades sur la route au niveau de Birnin-Gwari. Ils forçaient les voitures à s'arrêter. Certaines familles ont déjà été contactées pour envoyer d'importantes sommes d'argent aux ravisseurs.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et pour les infos internationales, les dirigeants européens se sont retrouvés à Sofia pour confirmer la perspective européenne promise aux pays des Balkans où la Russie tente d'étendre son influence. Mais ils ont aussi évoqué la question de leur rapport avec les États-Unis. Bagassi Kourin.
Après un dîner consacré hier au front uni que l'UE veut opposer à ce qu'elle appelle les caprices de Donald Trump, les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis avec leurs homologues d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, de Macédoine et du Kosovo. À l'issue du dîner de mercredi, les 28 se sont accordés sur une approche unie pour sauvegarder l'accord nucléaire iranien tant que l'Iran le respecte, après la décision du président américain Donald Trump d'en retirer les États-Unis, a indiqué une source européenne. La Commission européenne va lancer vendredi un processus qui pourrait lui permettre de bloquer les effets extraterritoriaux des sanctions américaines pour les entreprises européennes voulant investir en Iran. Les Européens s'inquiètent aussi des tensions qui subsistent dans les Balkans, comme celles entre la Serbie et son ancienne province du Kosovo. La Russie y a accru sa présence médiatique ces dernières années, mais son influence ne s'est pas encore concrétisée massivement sur le plan politique ou économique.
Et le secrétaire général de la Ligue arabe appelle à une enquête internationale sur les crimes des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis au Caire dans une réunion extraordinaire de l'organisation panarabe. Eric Manirakiza.
Organisée à la demande de l'Arabie Saoudite, la réunion au niveau des ministères des Affaires étrangères portait sur l'agression israélienne contre le peuple palestinien et le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Le secrétaire général de la Ligue arabe a condamné le recours à la force inouïe contre des civils palestiniens sans armes. Il a estimé que le transfert de l'ambassade des États-Unis dans la ville occupée de Jérusalem est une violation flagrante de la loi et la légitimité internationale. Les forces israéliennes ont tué lundi près de 60 manifestants palestiniens et blessé 2500 dans de protestations et de heurts le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. C'était le jour même de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis. Israël a justifié l'usage de la force pour défendre la barrière de sécurité et d'empêcher l'infiltration de Palestiniens. La Turquie organise vendredi à Istanbul un sommet de l'Organisation de la coopération islamique forte de 57 pays membres. L'intention est d'adresser un message très fort au monde en solidarité avec les Palestiniens.
Et ici, aux États-Unis, Donald Trump s'est entretenu avec le vice-premier ministre chinois, Liu He, en visite à Washington. À la question de savoir s'il y aurait un accord, le président américain a répondu « J'ai tendance à douter ». Le président américain ne cesse de dénoncer les pratiques commerciales déloyales de la Chine. Bravo l'Amérique, nous sommes entrés dans la deuxième année de la pire chasse aux sorcières de l'histoire des États-Unis. C'est sur ce tweet que le président américain conteste toute irrégularité dans l'enquête de Robert Mueller, l'ancien directeur du FBI. Ce dernier enquête sur la présumée ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle et les éventuels liens entre Moscou et l'équipe Trump. Dans l'intérêt du pays, je pense qu'il est temps de conclure, affirmé il y a quelques jours le vice-président Mike Pence. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée par Eric Manirakiza.
La lutte contre le changement climatique pourrait causer la perte de 350 000 emplois en Afrique d'ici 2030. Selon l'Organisation internationale du travail, la généralisation de la transition verte pourrait créer 24 millions de nouveaux emplois, mais en ferait disparaître 6 millions. Le Moyen-Orient et l'Afrique seraient les plus touchés. L'extraction pétrolière et le raffinage afficheraient des pertes supérieures à 1 million d'emplois. La transition vers une économie verte concerne l'économie circulaire, les activités de recyclage et de tri, la réparation, la location et la réutilisation d'objets. L'Agence française de développement AFD veut investir au Bénin 135,5 millions de dollars pour cette année. Ce financement vise à soutenir les projets de développement du pays. Plus de 19 millions de dollars ont déjà été décaissés depuis le début de l'année. Depuis 2014, les engagements de l'AFD en faveur du Bénin se sont élevés en moyenne à 77 millions de dollars annuellement.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Mondial 2018, les 23 du Sénégal sont connus.
Et oui, alors qu'il était censé dévoiler sa présélection de 35 joueurs, le sélectionneur du Sénégal a directement annoncé sa liste finale de 23 noms. À l'instar de Koulibaly, Kouyaté, Gana Gueye, Ismaël Sarr, Baldé Keïta, Moussa Sow et la star Sadio Mané, les têtes d'affiche sont là avec aussi Karam Bodj de retour de blessure. Les binationaux Sabali et Niang arrivés pour la fin des qualifications feront eux aussi le voyage en Russie. L'aventure s'arrête ici par contre pour Papi Djilobodji, Hassan Dioussé, Sankaré ou encore Santingom qui n'ont pas été retenus. Pour rappel, les Lions affronteront la Pologne, le Japon et la Colombie dans le groupe H.
Hervé Renard a lui aussi dévoilé directement sa liste des 23.
Le sélectionneur du Maroc a annoncé une liste de 23 lions de l'Atlas retenus pour le Mondial 2018, plus 3 réservistes avec Benassia, Dirar, Boussoufa, El Hamadi, Belanda, Harit, Ziyech ou encore Boutaïb. Les têtes d'affiche sont aussi là, tout comme la révélation du Chan 2018, Ayoub El Kabi. Pas de trace en revanche pour Sofiane Boufal, principal absent qui paie son manque de jeu avec Southampton. En Russie, les Marocains affronteront l'Iran, le Portugal et l'Espagne dans le groupe B.
Buffon quitte la Juventus, Yacouba.
Tout à fait, l'historique gardien de la Juventus a annoncé qu'il va quitter le club turinois après 17 saisons. À l'issue d'un dernier match samedi face au Hellas Vérone, Gianluigi Buffon a également déclaré qu'il ne rejouerait plus en équipe d'Italie, alors que sa présence était évoquée lors d'un match amical face aux Pays-Bas le 4 juin à Turin. Buffon a par ailleurs déclaré qu'il se donnait encore quelques jours pour décider de son avenir, qui pourrait être sur le terrain ou en dehors.
Et enfin, les crampons du pharaon Salah entrent au musée.
Les crampons de l'attaquant égyptien de Liverpool ont fait leur entrée au célèbre British Museum de Londres aux côtés des antiquités égyptiennes. L'équipementier du meilleur buteur de la Premier League a offert une paire de crampons à la vénérable institution pour célébrer le nouveau record de 32 réalisations pour une saison à 38 journées. Les crampons de Mohamed Salah seront exposés la semaine prochaine avant la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid samedi 26 mai à Kiev.
Merci Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. On en parlait dans le journal, les Burundais ont afflué très tôt aujourd'hui dans les 11 076 bureaux de vote. Au menu, un référendum constitutionnel qui va remplacer la constitution issue des accords de paix et de réconciliation d'Arusha, signé en 2000 par tous les belligérants. L'opposition juge le référendum inopportun. C'est un reportage de Christophe Nkurunziza.
Très tôt ce jeudi matin, les électeurs burundais se sont dirigés dans les urnes pour dire oui ou non pour le référendum constitutionnel. Calmement, les habitants de Bujumbura attendaient patiemment pour mettre le bulletin de vote dans les urnes où était écrite Commission nationale indépendante CENI en sigle. Nombreux étaient ces femmes et hommes qui, au sorti des urnes, clamaient haut et fort qu'ils ont le droit de vote dans de nombreux centres de vote de la capitale, mais qui ne savent pas ce qui est écrit dans cette nouvelle constitution. Ils l'ont dit à VOA Afrique.
Je viens de voter pour le non parce que, d'après ce que j'ai appris, c'est une constitution qui va consacrer tous les pouvoirs à un seul homme, au président. Le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, de nommer les ministres, de tous les pouvoirs. En fait, ça sera un pouvoir secret.
Je n'ai fait que remplir mon devoir civique. C'est pleinement mon droit. J'ai franchement voté pour le non. Cette constitution en soi qui vient d'être révisée, rien ne nous a été dévoilé comme composant de cette nouvelle constitution.
Mais écoutez, sur le plan sécurité, oui, ça s'est bien déroulé parce que les policiers y ont été déployés en masse, qu'il n'y a pas eu d'incident vraiment à signaler. Soit j'ai voté oui ou non, c'est entre les deux, vous savez, et puis ça restait secret pour des raisons de sécurité. Quelque part, j'ai été obligé d'aller voter vu la situation sociopolitique que nous traversons. Donc je devais aller pour ma propre sécurité, ma protection.
D'autres étaient vraiment contents de voter oui pour la nouvelle constitution, mais n'ont pas voulu donner leur voix pour des raisons inconnues à VOA Afrique. Mais juste après ce vote référendaire, ceux ou celles qui se sont rendus aux unes écouter la musique ensemble dans un bistrot du quartier Nyakabika. Le premier vice-président du Burundi, Gaston Sindimo, du parti de l'indépendance UPRONA, Union pour le Progrès National, est également parti voter pour le oui dans le quartier de Nyakabiga, un des quartiers du centre de Bujumbura. Il a déclaré que le gouvernement est prêt à concéder la victoire du non, car pour lui, tous les deux camps ont fait la campagne en toute liberté et quiétude. Mais de nombreux Burundais ont affirmé que connaissant les pratiques gouvernementales, les oui va l'emporter. Surtout qu'aucun observateur digne de foi ne s'est déplacé au Burundi. Le vice-président du parti Front pour la démocratie au Burundi, Léonce Ngendakumana, donne quelques arguments qui l'a poussé à dire à ses militants de voter non à ce référendum constitutionnel.
Le nouveau projet consacre l'exclusion. De beaucoup d'articles, il y a un autre article qui consacre l'impunité. Avant, il était prévu qu'un pouvoir, un parti politique, ou même un individu, un groupe d'individus, qui commettrait les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ou les crimes de génocide, allaient être traduits devant les juridictions internationales parce que chez nous, on n'a pas cette compétence aujourd'hui. Le nouveau projet a rejeté cette proposition. Il a dit qu'aucun Burundais ne peut être extradé, quelle que soit la nature des crimes qu'il aura commis. Vous comprenez que le pays risque d'être une région de la mafia.
Le Burundi vit depuis le coup d'état manqué de mai 2015, replié sur lui-même. Les bailleurs de fonds étrangers ont suspendu leur aide. Le pays reste parmi les plus pauvres de la planète. Et les efforts pour un dialogue inclusif restent toujours bloqués, le gouvernement ne voulant pas s'asseoir avec ceux qu'il qualifie de terroristes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et direction le Cameroun, où les évêques tirent la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Ils appellent à une médiation entre le gouvernement et les indépendantistes pour éviter, disent-ils, une guerre civile inutile. Selon les Nations Unies, plus de 160 000 personnes ont fui leur domicile à cause de la crise dans les régions anglophones. Pour réaction, Abdourahmane Dia a joint Monseigneur Sosthène Bayemi, responsable de la communication à la Conférence épiscopale nationale du Cameroun.
Ce qui attire notre attention, c'est l'aggravation de la situation dans les deux régions, aussi bien du nord-ouest que du sud. Sud-Ouest, qui vivent déjà depuis 2016 une situation de violence, mais on note une certaine radicalisation de toutes les parties, et c'est ça qui inquiète davantage les évêques.
Que vous disent vos collègues dans les régions nord-est et sud-est du Cameroun? Est-ce que la situation vraiment est inquiétante au point d'attirer votre attention aujourd'hui?
Nos confrères qui sont dans la zone, qui nous décrivent chaque fois que nous nous rencontrons, l'état réel de leur diocèse. Certains d'entre eux nous disent qu'ils n'ont même plus la possibilité d'aller dans certaines paroisses. Je prends le cas de l'évêque de Mansé, pareillement l'évêque de Kumba, qui ont vécu des situations réellement critiques et dangereuses. Ils nous font aussi état des déplacés. Énormément de populations sont déplacées, craignant des violences qui peuvent venir de n'importe quelle partie. Il y a aussi le fait que leur propre vie est même quelquefois mise en danger. L'évêque de Mansé me rappelle qu'il y a cela moins d'une semaine, rentrant chez lui, il a été stoppé par une bande armée de ceux qui réclament la sécession. Ils l'ont sorti de la voiture. Et il a fallu l'intervention d'un commandant qui est venu 30 minutes après pour qu'il soit libéré.
Vous pensez qu'on pourrait s'acheminer vers cette situation de guerre civile au Cameroun?
Oui. Si rien n'est fait, on peut arriver à une situation de non-retour. C'est possible. Nous n'en sommes pas encore là. C'est pourquoi nous estimons qu'une médiation s'impose pour que nous ne puissions pas avancer dans une situation de non-retour. Et les partis en place doivent dialoguer. C'est pourquoi les évêques estiment qu'une médiation s'impose maintenant pour qu'on amène aussi bien ceux qui réclament la sécession que l'État qui est dans son droit de préserver l'intégrité du territoire, entrer dans un dialogue qui puisse arriver à faire en sorte que les partis en place, et pour le bien du peuple, puissent s'entendre et résoudre le problème. Le problème sera résolu par les Camerounais.
C'était Monseigneur Sosthène Bayemi, évêque d'Obala dans le centre du Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et 21 ans, jour pour jour, le règne du président Mobutu a pris fin après 32 ans de règne. La FDL, le mouvement rebelle à l'époque, prenait le pouvoir en République démocratique du Congo. Mais que reste-t-il du combat mené par Laurent Désiré Kabila avant d'être remplacé par son fils? C'est une question à laquelle tente de répondre Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le samedi 17 mai 1997, aux petites heures du matin, les troupes de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo entraient dans Kinshasa sous les acclamations de la population au champ de libération. Cet événement mettait fin à 32 ans du régime dictatorial du président Mobutu, remplacé quelques jours plus tard par le leader de l'AFDL, Laurent Désiré Kabila. Mais 21 ans après, que retenir de l'action de celui que les Congolais appelaient affectueusement Mzé Laurent Désiré Kabila? Le professeur Didier Moumengi, ministre de la Communication et Médias sous Kabila Père, souligne surtout son amour pour le Congo.
Nous sommes redevenus République démocratique du Congo. Nous ne l'étions pas avant qu'il n'arrive au pouvoir. Par son action, nous avons le franc congolais comme monnaie. Et c'est un homme qui a porté très haut l'amour du Congo et l'attachement au bonheur du peuple congolais.
Au plan politique, l'AFDL n'est plus la première force politique qu'elle fut de 1997 à 2001. Le mouvement s'est affaibli avec la mort de son leader. Plusieurs de ses cadres et ministres d'alors ont rejoint l'opposition. Le cas du docteur Sonji, ancien ministre de la Santé, très critique à l'endroit du pouvoir actuel. D'autres par contre sont restés avec Kabila fils. Le cas de Théophile Bemba, gouverneur de la ville de Kinshasa et ministre sous Kabila père et fils.
Pendant ces 21 ans, le président Joseph Kabila a tout fait pour que la paix revienne, la démocratisation et le démarrage de la reconstruction. Il y a des buts, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. La majorité présidentielle, faut avouer, on n'est plus tellement dans cette vision de Mzé Laurent Désiré Kabila.
17 mai, journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Interrogé sur ce qu'il reste du combat de Mzé Laurent Désiré Kabila, les Kinois sont très divisés.
Le pays se retrouve actuellement dans un état beaucoup plus confus à cause d'ailleurs de l'entrée de l'AFDL qui nous a laissé des traces dans notre armée, des étrangers qui aujourd'hui on ne sait pas les identifier et aussi les mettre totalement dehors de notre pays.
Ben, c'était un bon combat, un combat qui nous a libérés de la dictature de M. Mobutu.
C'était un bon souvenir parce que c'était nos amis qui étaient venus se joindre à nous pour que nous combattions ensemble Mobutu. Comme eux étaient armés, nous ne l'étions pas. Nous étions parvenus tous à faire partie Mobutu. Mais jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui tâtonnons. Nous ne foutons rien.
On fait des séjours, excusez-moi, un jour férié. Mais qu'est-ce qu'on peut commémorer de ce jour? Pour moi, la vie politique actuelle de la République démocratique du Congo est dans le chaos et dans le néant.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Ainsi va le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Sims Loumami à la mise en onde, Souleymane Tarawale à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont officiellement transféré le 14 mai leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, capitale d'Israël. En déplaçant notre ambassade à Jérusalem, nous avons prouvé au monde, une fois de plus, que l'on peut faire confiance aux États-Unis, a déclaré le conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner. Nous nous tenons aux côtés de nos amis et de nos alliés, et plus que tout, nous avons montré que les États-Unis d'Amérique font ce qui est juste, et nous l'avons fait, a-t-il ajouté. En prenant cette mesure, a dit M. Kushner, les États-Unis ont choisi de renforcer les liens entre les États-Unis et Israël. Ces liens ont été forgés à travers une histoire partagée, des intérêts partagés et immortalisés à travers des principes partagés. Les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que les deux pays croient aux droits humains. Nous nous tenons ensemble parce que nous croyons que la démocratie mérite d'être défendue. Et les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que nous pensons et savons que cela est juste, a déclaré M. Kushner. Israël prouve chaque jour la puissance illimitée de la liberté. Cette terre est la seule au Moyen-Orient où juifs, musulmans et chrétiens et des gens de toute confession religieuse peuvent vivre et prier conformément à leurs croyances, a dit M. Kushner. Les États-Unis demeurent engagés pour une paix durable et sont prêts à soutenir un accord de paix de toutes les manières qu'ils peuvent, a déclaré M. Kouchner. Nous croyons qu'il est possible pour les deux camps d'obtenir plus qu'ils ne concèdent afin que tous les gens puissent vivre en paix, à l'abri du danger, libres de toute peur et à même de poursuivre leurs rêves. Les États-Unis reconnaissent que la question de Jérusalem est délicate et continuent d'appeler toutes les parties à maintenir le statu quo concernant les lieux saints de cette ville. Alors qu'Israël entame la 701e année de son existence, une nouvelle page est tournée dans la quête d'une paix durable, a déclaré M. Kouchner. Je pense que la paix est à portée de main si nous osons croire que l'avenir sera différent du passé, a dit M. Kouchner. Le chemin ne sera pas difficile, sera marqué par des moments et des décisions difficiles. Mais si nous avons des grands rêves, si nous menons avec courage, nous pouvons changer des trajectoires des millions de personnes, passant du désespoir à l'espoir sans limite.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à